Europe 1 Sport, Céline Géraud.
Allez, juste avant 22h, on est ravis d'accueillir Maxime Sorel ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un aventurier au grand cœur, hein, puisque maintenant on va parler de voile et d'alpinisme. On va vous amener au sommet de l'Everest. Pourquoi ? Parce que jeudi dernier, vous avez donc atteint avec votre Sherpa le sommet de l'Everest à 8848 mètres d'altitude. Et vous devenez donc le premier homme au monde à avoir bouclé un Vendée Globe, hein, qui est l'Everest des mers, le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistante à la voile, et l'Everest, le toit du monde situé au Népal. Alors, première question, voilà, une semaine après, quelle sensation vous gardez encore de cette aventure extraordinaire ?
Ben, complètement plein de magie. Hein. C'est vrai que toucher le toit du monde, c'est juste incroyable, après avoir bouclé un tour du monde à la voile.
Je le rappelle, du Vendée Globe, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas encore, Maxime Sorel, un excellent skipper et un excellent alpiniste.
Je suis très fatigué, je ne réalise pas vraiment encore tout ce que j'ai fait et là je suis content de rentrer en France.
Oui, parce qu'on le rappelle, hein, vous êtes parrain de l'association Vaincre la mucoviscidose. Alors au-delà de ce voyage qui était un défi personnel sportif, il y avait aussi une aventure humaine, une volonté de partager. Et on peut quand même en parler quelques minutes. Les sensations que vous avez vécues à cette très haute altitude sont celles finalement que ressentent les gens atteints de cette maladie.
Ouais, c'est ça. En 2017, ce projet est né. Je me dis, si je suis capable de créer un projet Vendée Globe, je devrais être capable à la fois de le réaliser, mais aussi de créer un double Everest. Et donc, monter en haut de l'Everest, ça veut dire avoir quasiment la même capacité respiratoire qu'un patient. Un patient qui est en attente de greffe. Donc pour lui, c'est vraiment un état ultime. Et c'était un vrai message d'espoir que le parrain aille se confronter à ça pour eux.
Concrètement, c'est-à-dire en termes de pourcentage d'oxygène, ça représente quoi ?
C'est comme si on n'avait plus qu'un quart de poumon, en gros, en termes de respiration. Donc pour continuer une ascension à partir du camp 4 qui est à 8000 mètres pour monter à 8848 mètres au-dessus des océans, c'est, on va dire, un pas, trois respirations, un pas, trois respirations. C'est vraiment éprouvant et j'ai fait l'expérience sans le vouloir de ne plus avoir d'oxygène parce qu'en fait j'ai mon tuyau d'oxygène qu'on prend pour monter qui s'est débranché.
Qu'on met à quelle altitude, à partir de quelle altitude ?
À peu près au niveau du camp 3, à 7300 mètres. Mm-hmm. Alors il faut savoir que l'oxygène ça redescend pas au niveau zéro, hein, clairement. C'est quand on est en haut de l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme si on était à 8000 sans ox. Mm. Et j'ai fait l'expérience quasiment au sommet d'avoir ce tuyau qui était débranché. Et là, on n'a plus que 10% de capacité respiratoire. Donc
et
là,
donc on
suffoque
on a...
vraiment. Quoi.
Ah ouais,
on a la tête qui tourne, on se sent vraiment pas bien. J'ai dû m'asseoir sur un caillou et c'est un autre Sherpa qui m'a branché mon tuyau parce qu'il était débranché.
Parce que vous n'aviez même plus au niveau de votre cerveau, la capacité d'interagir pour réagir.
C'est ça, la lucidité de comprendre ce qui se passait. Alors j'ai posé la question à quelqu'un qui passait de savoir s'il restait de l'oxygène dans ma bouteille. Il m'a dit qu'elle était vide. Et là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Et c'est un peu chacun pour soi, clairement. Hein. Il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, donc il faisait très très froid, aux alentours des moins 40, moins 50. Donc ouais, c'est pas simple de réagir, hein, dans ces cas-là.
On est sur Europe 1, hein, jusqu'à 23h, bien sûr. Europe 1 Sport, vous le savez, on parle de sport et de tous les sports. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Maxime Sorel, skipper, 10e du dernier Vendée Globe et qui vient de gravir l'Everest, parrain de l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous aviez ce projet en tête depuis 2017, je l'ai dit. Le moment le plus dingue pour vous, qui avez quand même connu la difficulté d'être en mer, en solitaire, on sait la difficulté du métier de skipper, surtout la course au large, en solitaire. Qu'est-ce qui vous a paru le plus dingue quand vous étiez dans la très haute montagne ?
Ben, d'être sur le toit du monde. Alors, je suis arrivé hyper tôt, je suis arrivé à 3h48, il fait nuit. Et quand j'ai commencé à descendre, une demi-heure après, les lueurs du jour, les premières, ont commencé à apparaître. Et en fait, tout paraît petit. J'ai vécu au camp de base pendant un mois, entouré de montagnes qui font 7000 mètres, qui avoisinent les 8000. Et quand on est en haut de l'Everest, c'est des petits cailloux. C'est 1000 mètres en dessous et ça paraît tellement dingue d'avoir des grosses montagnes comme ça qui sont toutes petites.
Vous qui avez affronté, je le disais, des conditions météo aussi compliquées, qui êtes quand même rude et dur au mal, le froid, vous l'avez ressenti le froid ?
Ouais, le froid je l'ai ressenti et je l'ai ressenti dès le camp 4. Alors le camp 4 c'est le camp qu'on quitte, on va dire, en début de soirée, la journée de l'ascension. pour atteindre le sommet 8 à 12 heures après, suivant comment on avance. Et en fait, on avance tellement pas vite que en fait, le corps il monte très peu en température. Et j'avais les pieds qui commençaient à geler. Donc à chaque pas, je tapais sur le bout de mes doigts pour que le sang aille au bout des doigts de pied et quasiment jusqu'au sommet, quoi.
Vous avez eu peur à un moment donné de pas y arriver ? Vous êtes dit, ça va être compliqué, pour les raisons que vous venez d'évoquer, le froid, l'oxygène, le doute parfois.
Ouais, après, ça fait un peu partie de mon métier de skipper.
Oui, voilà. Que... Cette expérience vous a énormément servi, j'imagine.
Ouais, clairement. C'est sûr que l'échec, ça fait partie de notre sport. C'est un sport mécanique, la voile. La seule différence, c'est que là, mon corps était la machine. Et j'avais effectivement le doute de ne pas réussir à atteindre ce sommet, mais déjà l'aventure que j'avais créée auparavant était magnifique et le rêve que j'avais en 2017 était en train de se réaliser, donc l'envie était là, quoi.
Avec des projets bien sûr qui continuent, vous allez repartir je crois très bientôt en mer, on peut peut-être en parler avant d'évoquer justement vos projets, savoir en quoi cette expérience va changer le regard que vous portez sur votre sport naturel qu'est la voile.
Eh ben, clairement déjà la manière de me préparer, j'ai bossé avec un centre 3D1 Perform qui est à Annecy là, qui m'a énormément préparé et du coup j'ai eu une autre manière de le faire, une autre manière de voir les choses. Si je puis dire, je me suis quand même bien mis un coup de pied aux fesses pour aller gravir cet Everest et ça mentalement oui ça change les choses, donc je serai probablement plus fort sur le prochain Vendée Globe.
Alors justement, il y a le Vendée Globe en 2024
ouais.
Et entre temps vous allez faire la Transat Jacques Vabre.
C'est ça, Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, donc une course en double, une transatlantique en solitaire, et ensuite l'année prochaine on a deux transat en double, la Jacques Vabre. Et l'année prochaine, on a deux transats en solitaire avant le Vendée Globe en 2024.
Et d'autres projets, avec quel bateau d'ailleurs vous avez déjà
avec votre... l'IMOCA VNB Montbana Mayenne, donc, qu'on a construit l'année dernière. On a fait la route du Rhum, on a fait cinquième sur la route du Rhum l'année dernière.
Donc le même bateau, le même équipage, la même équipe.
Le même bateau, même équipage, même équipe. Le bateau est déjà à l'eau, il m'attend. Normalement, la semaine prochaine, je serai sur les océans.
Et d'autres projets un peu fous comme celui-là qui commencent à maturer, où vous allez encore récupérer de celui-là qui a quand même été extrêmement éprouvant, l'a compris. Hein.
Ouais, je viens d'arriver ce matin, donc oui, j'ai un peu besoin de récupérer. Après,
vous êtes très marqué sur les photos que j'ai vues, parce que là, je vous vois, je trouve votre visage très apaisé. J'ai vu des photos de vous là-haut, on a l'impression que vous avez 10 ans de plus, quoi.
Et ouais, là-haut, en fait, avec l'altitude, on fait des espèces d'œdème facial. Et donc, le masque à oxygène qu'on garde une dizaine d'heures, forcément, il marque. Donc, quand on l'enlève, ça fait un peu bizarre. Ouais.
Bon, en tout cas, vous repartez avec un max d'énergie. Et donc, la prochaine course pour vous, vous l'avez dit, c'est la Transat
Jacques Vabre. Ouais, c'est
voilà,
ça.
Très bientôt. Bon, bah, merci infiniment. En tout cas, Maxime Sorel, c'était un vrai plaisir. Maxime Sorel, skipper, qui devient donc le premier homme, je le rappelle, au monde à avoir bouclé le Vendée Globe en mer.